Le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes présente à l'usage exclusif des auditeurs aveugles et amblyopes qui empruntent cet ouvrage Une fin de loup par A. Frollo, F-R-L-O-W, édition Flammarion, collection Castor Poche Cadet, 1989. Il était une fois trois petites souris qui vivaient dans une forêt où elles avaient bâti une maison confortable. Il y avait une bonne provision de bois pour l'hiver. Des jambons de Paris et de Bayonne pendaient aux poutres de la cuisine. Le garde-manger était garni de fromage, de sacs de farine et de pots de confiture. Il y avait même des paquets de bougies, aussi bien pour l'éclairage que pour servir de dessert les jours de fête. Les souris étaient liées d'une vive amitié. Elles avaient un excellent caractère et ne se disputaient jamais. Aussi vivaient-elles heureuses et sans souci. Tant de bonheur rendait jaloux les loups du voisinage. Ils voulaient s'emparer de la maison et dévorer les souris. Ils étaient si féroces qu'ils auraient aussi bien mangé leur propre mère. Un soir, deux d'entre eux, les plus méchants, vinrent frapper à la porte de la petite maison.
« Qui est là ?»
demandèrent les souris.
« Ouvrez, c'est nous !»
dirent les loups en contrefaisant leur voix, de leur voix la plus flûtée, ou du moins la croyaient-ils telle.
Qui, nous ?
Les chats !
Les souris étaient trop malignes pour se laisser prendre à cette ruse grossière. Elles poussèrent plus à fond les verrous de la porte et dirent en riant :
Nous vous laissons manger par le loup !
Les loups furent obligés de s'en aller. Chemin faisant, un des compères loups dit à son compagnon : Si les souris ne nous ouvrent pas la porte, nous pouvons passer par la cheminée. La seule difficulté est d'atteindre le toit. Comment faire ?
J'ai une idée, répliqua l'autre, qui s'appelait Guillaume. Mon cousin Germain a justement une échelle. Il nous la prêtera et même il la portera sur son dos. Il est toujours content de rendre service. Ce pauvre garçon est un peu nigaud.
Dans sa méchanceté, ce loup ne comprenait pas que l'on pût rendre service autrement que par bêtise.
« Tu as un précieux cousin !»
remarqua le premier loup avec un rire moqueur, et ils allèrent chercher l'échelle. Le cousin n'osa pas la leur refuser. Il accepta cependant à contre-cœur. Ce n'était pas un mauvais loup, mais il manquait de volonté. Munis de l'échelle, les trois loups retournèrent à la maison des souris. C'était l'heure du dîner et les souris étaient à table. Les loups jugèrent plus prudent d'attendre qu'elles aient fini de manger et soient couchées. La nuit était noire, sans lune, sans étoiles. L'hiver était terrible. Il faisait si froid que l'on entendait craquer les sapins. Enfoncés dans la neige jusqu'aux genoux, les loups claquaient des dents de froid. Pendant ce temps-là, les souris dînaient gaiement dans leur petite maison. Les loups les entendaient chanter et les voyaient à travers la fenêtre lever leur verre et boire à la santé l'une de l'autre. Après dîner, elles montèrent au grenier pour faire une partie du jeu de barre. Il était fort tard quand elles allèrent se coucher et éteignirent la lumière. Alors, un des loups dit à voix basse à ses compagnons : Attendez-moi, les amis, je vais aller en reconnaissance. Il grimpa sur l'échelle appliquée contre le mur, gagna le toit, s'approcha à pas de loup, c'est le cas de le dire, de la cheminée et se laissa glisser dans l'ouverture. Il descendit à la force des poignets, les sourcils froncés et la langue tirée, évitant avec mille précautions de faire le moindre bruit. Mais les souris l'entendirent quand même. Lorsque le loup mit pied à terre, elles avaient déjà sauté du lit, allumé la chandelle et tiré leurs épées. Le loup aurait aimé être à 100 lieues de là, mais il n'était plus temps. Il était pris. Et pour se tirer d'affaire, il essaya la ruse. Il fit semblant d'être désespéré. Tendant les pattes vers les souris, il s'écria
« Pourquoi ces précautions et ces vaines alarmes? Je viens implorer votre hospitalité. Une bande de lièvres enragés me poursuit. Je suis à bout de force, à bout de souffle. De grâce, sauvez-moi !»
Les souris, qu'il avait parfaitement reconnu à son grand chapeau de brigand, échangèrent un coup d'œil entendu.
« Vous nous faites un grand honneur, monsieur, dirent-elles, en vous adressant à nous. Nous comptons bien vous montrer que 3 petites souris sont bonnes à quelque chose. »«
Ouais, pensa le loup, bonnes à être croquées. » Oh, vous serez endormi. »
Cette réflexion lui sembla si plaisante qu'il éclata de rire.
Ha 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 ha!
Les souris lui demandèrent pourquoi il avait ri.
Ha 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 ha! Je pense aux lièvres, répondit le loup. Il se tordait littéralement.
Ouvrant une gueule profonde comme un four et garnie de terribles crocs. À cette vue, les souris foncèrent sur lui avec leurs épées pointues.
« Arro ! Arlou ! »
cria-t-elle. Et elles transpercèrent le loup de part en part. Lorsqu'il fut mort, elles traînèrent son corps dans la cave et le jetèrent dans un tonneau vide. Puis elles regagnèrent leur lit, mais elles ne pouvaient plus s'endormir.
« Je sens mon cœur qui bat très fort. J'ai, comme on dit, le petit rat, » dit une des souris.
« Allons, calme-toi, » répondirent les autres. « Tu vois bien que le loup ne nous emportera pas sans lever la queue. »
Cependant, dehors, la nuit devenait de plus en plus glaciale. Les deux loups qui attendaient devant la maison tremblaient de tout leur corps. Mais cela ne les réchauffait pas. À la longue, l'un d'eux, ne voyant pas revenir son compagnon, crut que celui-ci était en train de dévorer tout seul les souris et leurs provisions. Il dit à son cousin Germain
« Attends-moi, Jeannot, je m'en vais aller l'aider. »
Il essuya ses pas et se glissa dans la cheminée. Cette fois encore, les souris entendirent le bruit. Quand le loup surgit de l'âtre, elles avaient déjà allumé la bougie, jeté sur leurs épaules leur manteau de soie bleu-gris et saisi leurs épées. Le loup, se voyant pris, usa de ruse comme le précédent. Il s'écria avec une grimace hypocrite.
« Prenez garde ! Ne versez pas le sang d'une personne innocente et bien intentionné, je viens vous avertir d'un danger effrayant. » On a vu sortir de son trou un autre loup, un méchant loup, un féroce loup. Il avait la mine sombre et une méchante lueur brillait dans ses yeux. Il s'est dirigé d'un pas rapide dans la direction de votre maison. « C'est un mauvais sujet, la honte de notre famille. S'il faisait chez vous un vilain coup, nous serions tous déshonorés. De grâce, méfiez-vous. »
Les souris faisaient semblant de croire tous les mensonges que disaient les loups. Poliment, elles répliquaient.
« Monsieur, votre cousin est déjà arrivé. Vous vous trompez vraiment sur son compte. Il nous a paru être très joyeux. Nous l'avons bien reçu. En ce moment, il est à la cave où ils goûtent notre vin, notre bon vin. Vous plairait-il de le rejoindre? Cela nous ferait un plaisir extrême.
Le loup, si rusé qu'il fut, ne flaira pas la ruse. Il continuait à verser des larmes hypocrites, comme si réellement la mauvaise conduite de son parent lui faisait de la peine. Mais en lui-même, il pensait arriver rapidement à dévorer les souris. Les souris le prirent sous les bras et le conduisirent à la cave. La queue du loup tué sortait d'un tonneau. Un courant d'air en faisait remuer les poils. Les souris dirent :
Voyez comme le vin plaît à notre ami. Il remue la queue de plaisir. Nous sommes de petites gens, trop menus, mais pas avares. Veuillez boire, cher monsieur, à même le tonneau, comme votre cousin. Tout le plaisir sera d'ailleurs pour nous.
Elles choisirent un gros tonneau et en enlevèrent le fond. Le loup, qui était aussi ivrogne que gourmand, pensa :
Décidément, ces souris sont de bonnes petites. Je les mangerai à regret.
Il se pencha avidement sur le tonneau. Les souris profitèrent de l'occasion. Elles saisirent le loup par les pattes de derrière et le firent basculer dans le tonneau, la tête en avant. De cette façon, le loup but plus qu'il ne voulait et finit par se noyer. Les souris étaient ravies d'être débarrassées de leurs ennemis. Elles se prirent par les pattes et dansèrent une ronde en chantant « Au piège, on a pris le loup avec une jarretière. Au piège, on a pris le loup, la louve et le tout, et les louveteaux. » Pendant ce temps, Jeannot, le troisième loup, qui se doutait bien du sort de ses compagnons, réfléchissait dans la neige.
« Il fait de plus en plus froid. Me voilà bien puni de ma faiblesse. Je sens que ma queue va tomber en mille glaçons. Je ne ferai pas la moitié du chemin jusqu'à ma maison que je serai mort de froid. Tant qu'à faire, je m'en vais monter chez les souris. Elles me mangeront peut-être, mais au moins, je me réchaufferai. »
Il grimpa donc à son tour sur le toit. Ses pattes étaient engourdies et il tomba dans la cheminée avec un vacarme épouvantable et patatras, boum, zing, padaboum. Mais les souris étaient encore à la cave et ne l'entendirent pas. Lorsqu'elles remontèrent, tout essoufflé et riant aux larmes, elles trouvèrent Jeannot étendu dans l'âtre, dans le bas de la cheminée. Son poil était hérissé et couvert de glaçons et de suie. Ses membres étaient raides comme des bâtons. Il était terrible à voir. Les souris eurent la plus belle peur de leur vie et s'arrêtèrent net de rire.
« Oh, c'est le diable !»
s'écrièrent-elles, et leurs petites dents blanches claquaient de frayeur.
« Hélas !» dit Jeannot qui tremblait lui aussi, « je ne suis qu'un loup. En dehors de cela, ma seule faute est d'avoir apporté l'échelle. »
Et il leur raconta son aventure. Les souris se rendirent compte qu'il était sincère et repentant. Il disait la vérité et voulait devenir gentil. Son aspect misérable leur inspira même la charitable pensée de le garder chez elle. Elles lui proposèrent de le garder comme cuisinier. Jeannot accepta avec empressement. Depuis cette nuit mémorable, il n'eut plus à se plaindre ni du froid ni de la faim, dont souffrent cependant tous les loups qui hurlent dans la campagne. Il prit goût à faire la cuisine et réussissait des plats excellents. Les souris le traitaient avec politesse et bonté comme un ami. Le dimanche, Jeannot les promenait sur son dos à travers la forêt. Le soir, il s'allongeait devant le feu. Les souris venaient lui tenir compagnie et jouer dans sa fourrure. Ils vécurent parfaitement heureux. Le dernier chagrin de Jeannot fut de trouver dans la cave les corps de ses anciens compagnons. L'un était dans un tonneau vide, l'autre dans un tonneau plein de vinaigre. Le printemps était venu, la terre commençait à dégeler. Jeannot creusa deux fosses et enterra les mauvais loups. Il cueillit les premières fleurs qui venaient d'éclore et les déposa sur les tombes en essuyant une larme au coin de son œil. Puis il retourna à ses casseroles. Fin de l'histoire, une fin de loup. L'histoire suivante est de P. Vendamme, V-E-N-D-A-2-M-E, Patrick Vendamme, et elle s'appelle Crotte alors, avec même crotte au pluriel. C'est aussi un livre de la collection Castor Poche Cadet de chez Flammarion. Quand à table j'ai dit que la chatte de mon copain Émile avait eu 4 chatons et que j'aimerais bien en avoir un, je savais la réponse qui allait arriver.
« Ah non !» s'est exclamé papa. « On a un chien, un oiseau, 2 tortues, des poissons, ça suffit. Ce n'est plus un appartement, c'est une ménagerie. »
J'ai pleuré un peu en disant que c'était vraiment des petits chats mignons, mais papa a tenu bon.
« Tu sais bien, Jules, que les chatons, c'est toujours mignon, mais que ça grandit. Et puis tu te rends compte, nous sommes les seuls dans le bâtiment à avoir autant d'animaux. »
J'ai dit, dans le bâtiment peut-être, mais au cèdre, les Martinez, ils ont des poules et des lapins sur leur balcon. Et j'ai ajouté que ça faisait à peine un animal par personne, puisqu'on est 6 en tout. Papa n'a plus rien dit. J'allais porter ma deuxième attaque, lorsque maman est venue à la rescousse en disant, tu connais tous les problèmes que ça pose au moment des vacances. Et puis, il vaut mieux avoir peu d'animaux, mais qu'il soit heureux avec nous.
Sans compter que ton chat se ferait écraser à sa première sortie, a ajouté papa, avec toutes ses voitures dans la résidence.
Je n'ai plus rien dit, que voulez-vous? Mais il avait dit ton chat et non pas un chat. J'avais l'impression que même dans la tête de papa, il était un tout petit peu là et à moi, ce chat.
En général, les parents font des efforts terribles pour choisir le mot juste. Par exemple, si on dit « il appuya sur la gâchette », papa rectifie aussitôt « sur la détente ». On dit « appuyer sur la détente » et même sur la queue de détente. Mais pour les vraies nuances, papa a encore des progrès à faire. Le mercredi, je suis allé chez Émile. On a joué avec les chatons. Pas trop longtemps pour ne pas les perturber et pour ne pas inquiéter leur mère.
« C'est dommage que tes parents ne veuillent pas, » dit Émile. « Je t'aurais donné celui-là. »
C'était une petite boule bleue, gris, adorable, avec 2 petits yeux verts et une langue rose.
Pendant les vacances de Pâques, je n'ai plus trop pensé à cette histoire de chaton. Mais à la rentrée, quand je l'ai raccompagné chez lui, Émile m'a dit « « Rentre 2 minutes, je vais te montrer Gaspard. Il n'y a plus que lui. Les autres, des gens sont venus les chercher. » Il était dans sa caisse, endormi, ses petites pattes pelotonnées contre son ventre rond. Ah, oh, comme il avait grossi! Sa mère, la chatte, m'a fixé avec ses grands yeux verts, doux et tendres, qui semblaient dire « Alors, vraiment, tu ne veux pas l'adopter ?» Et c'est là qu'Émile a murmuré sans me regarder.
Et moi qui avais dit à mes parents que c'était sûr, que tu nous en prendrais au moins un. J'ai crié, « Ah là, tu exagères. Et puis moi, je voudrais bien, mais mes parents... »
N'empêche, en rentrant, j'étais fermement décidé à faire une nouvelle tentative. Et le soir, à table, j'ai reparlé de Gaspard en expliquant comme il était beau, propre et gentil. Papa et maman se sont regardés en douce. Papa a fait un signe minuscule à maman, mais elle a froncé les sourcils et il s'est tu. Ou plutôt non, car il a conclu
« Quand je dis non, c'est non !»
Mais il a dit ça d'une voix tellement drôle que j'ai pensé que tout espoir n'était pas perdu. Les jours suivants, je suis arrivé à la conclusion qu'un chat dans un appartement, ça sert à rien et que c'est pour ça que les parents n'en veulent pas. Un chien, c'est pas pareil. Il aboie, il gronde à la porte quand on n'est pas là. Il y en a même dans la résidence qui ont des bergers allemands dressés. Par exemple, M. Dussard, depuis qu'on a volé le raccord de la pompe à vélo de son fils dans la cave collective, il ne descend plus qu'avec Rex, son chien policier, en répétant
« Qui vole un œuf, vole un bœuf !»
Mon frère Jérôme, il dit qu'il ne comprend pas pourquoi Dussard a si peur des voleurs d'œufs et de bœufs, puisque c'est un raccord de pompe qu'on lui a volé et qui n'a pas de bœuf. Mais je m'égare, comme dit Mme Blétou, la maîtresse de CM2. Donc un chat, c'est inutile, ou plutôt, c'est devenu inutile. Là, j'ai senti que je réfléchissais à fond et que j'étais sur une bonne piste. Avant, il y avait des chats dans toutes les maisons parce qu'ils chassaient les souris. Voilà, bien sûr, j'avais trouvé. En prenant le problème par le bon bout, j'y voyais plus clair. Des souris, il y en a bien à la boutique Zoho, logis, L-O-G-I-S, de la galerie marchande, mais elles sont blanches et il faut les acheter. Éliminer. C'est en promenant notre chien, Kepler, de l'autre côté de la route nationale que j'ai eu une idée. Une grande ferme se dresse toute seule au milieu des champs. Il doit y avoir des tas de souris dans les granges et les greniers. Des souris et des crottes de souris. Bien sûr, voilà ce qu'il me fallait, des crottes de souris. Je connaissais un garçon qui habitait dans cette ferme. C'est un grand quatrième au CES. On était samedi et il était là, justement, en train de bricoler un vieux Solex rouillé. « Salut, t'es au CES ?»« Ouais. » Et il s'est essuyé les mains sur son jean. On a parlé de mon chien, et puis je lui ai expliqué mon problème à ma façon. J'ai dit que j'avais besoin de crottes de souris pour faire une farce à un copain. Il a dit « Ouais, c'est possible que je t'en trouve. Attends un peu. » Un quart d'heure après, il est revenu avec une petite boîte d'allumettes qu'il a ouverte. Elle était pleine de saucisses noires, dures et minuscules. «
C'est ce qu'il me faut !» J'allais prendre la boîte, mais il l'a refermée en faisant un pas en arrière.
« Eh, c'est 25 centimes la crotte !»« Oh, ça alors, tu y vas fort !»« C'est à prendre ou à laisser !»
On a discuté, j'ai réussi à avoir ma boîte de crotte pour 5 francs. Le soir, dans ma chambre, je les ai comptées. Il y en avait 47. 47 crottes pour 5 francs, j'étais contente de mon affaire. Après le repas, en allant promener Kepler, je suis passé à la cave et j'ai mis des crottes un peu partout. Sur les vieux meubles, sur le sac de pommes de terre et même sur la selle du vélo de papa. Il s'en sert plus du tout, mais je sais qu'il s'arrange pour aller au moins une fois par semaine voir si le vélo ne rouille pas. Et j'ai eu beaucoup de chance, car le soir même, maman a demandé à Antonin de descendre à la cave chercher le grand vase en verre pour mettre le lilas que Cécile avait cueilli. Il est remonté avec le vase en disant « Il y a des souris à la cave, c'est plein de crottes, jusque sur le vélo de papa. »«
Hein ?»
a fait papa, et il est parti voir. Moi, mon cœur battait, mon plan marchait à merveille.
« Pas de doute, c'est des souris, » a dit papa en remontant.
J'ouvrais déjà la bouche pour dire « Il faudrait un chat. » Mais il a poursuivi.
« Faudra mettre du blé empoisonné un peu partout. »
Ah, catastrophe. Mon plan était à l'eau.
« Tu n'y penses pas, » dit maman. « Avec tous ces enfants qui jouent dans les sous-sols, c'est trop dangereux. »
Ouf, Gaspard était sauvé.
« On mettra des tapettes à rats, et seulement dans notre cave. »
Cette fois, c'était comme si je voyais s'éloigner mon Gaspard pour toujours. J'étais vaincu. Le lundi, papa est revenu avec 3 ou 4 tapettes. Il nous a montré comment on appâtait, comment on armait, et les précautions à prendre pour ne pas s'abîmer les doigts. Ah, maudite tapette ! À travers la porte de la cave, je les imaginais montant la garde, prêts à me frapper si Gaspard apparaissait. Un soir, en rentrant de l'école, je suis allé enlever les petits bouts de gruyère que papa avait mis et j'ai posé bien en évidence quelques crottes qui avaient glissé dans les coins. Papa est rentré juste après. J'étais dans ma chambre.
« Tu me croiras si tu veux, » a-t-il dit, « mais elles ont boulotté tout le gruyère sans se faire prendre. »
Maman a demandé, « Qui ça, elle ?»
Et il a presque crié, « Mais les souris, voyons !»
Les jours suivants, j'ai poursuivi ma mission secrète d'enleveuse de morceaux de gruyère. Entre papa et moi, c'était comme un combat que je devais à tout prix gagner. Maman demandait aux voisines si elles avaient aussi des souris dans leur cave. Personne n'en avait, évidemment. Madame Dussard a dit que c'était peut-être parce qu'on mettait trop de gruyère et que ça les attirait. Pendant ce temps-là, Gaspard grossissait et Émile s'impatientait. « Mes parents commencent à râler, disait-il. Ils vont mettre une petite annonce dans Hebdocase. Donne contre bon soin chaton affectueux. »« Donnez mon chat ? » Ah, j'ai obtenu un sursis, j'ai filé à la maison. Dans la cave, derrière le vélo de papa, il y avait une caisse. Je savais qu'elle représentait ma dernière chance. Cette caisse est pleine de copies de cours de français et de philo que papa garde car il dit
« Ça peut vous servir plus tard. »
J'ai tiré 2 feuilles au hasard et j'ai arraché les bords en faisant une sorte de dentelle. Bien sûr, avant de remonter, j'ai aussi enlevé le gruyère des tapettes. Quand papa est rentré, la porte a claqué.
« Bonsoir. Ça ne peut plus durer. Elles ont grignoté à moitié le lac de Lamartine et aussi les pensées. »
Tout le monde a eu un air surpris, même moi. Jérôme a dit qu'il ne savait pas qu'il y avait des fleurs à la cave. Et papa a expliqué que les pensées étaient l'œuvre de Pascal, un grand homme du XVIIe siècle. Puis il s'est tourné vers moi, l'air soucieux. « Dis-moi, Jules, tu nous avais pas parlé d'un chat adopté ?» J'ai fait un immense effort pour ne pas sourire jusqu'aux oreilles et pour ne pas crier « Youpi !» en dansant autour de la table. Et c'est comme ça que Gaspard est venu chez nous. On l'a conduit tout de suite à la cave. Mais la nuit, il miaulait tellement fort que les voisins se sont plaints. Comme il n'y avait plus de souris, enfin, plus de crottes ni de feuilles déchirées, on l'a gardé dans l'appartement. Au début, il s'est bien amusé à grimper dans les rideaux et à griffer les tapisseries, mais après, il s'est ennuyé. Pour les grandes vacances, on a demandé à grand-mère si elle pouvait prendre aussi Gaspard. Elle n'a pas dit non, et en septembre, papa n'a pas dû trop insister pour qu'elle le garde. Je le vois tous les dimanches, et il s'amuse bien dans le jardin et dans les arbres. L'autre jour, il est revenu, tout fier, avec une souris.
Fin de l'histoire Crotte à l'or et fin de la deuxième face de cette cassette unique.